Les matins de France Culture.
La revue de presse internationale avec vous, Camille Magnard, bonjour. 344 millions de dollars, est-ce à ce prix que la communauté internationale s'achète une bonne conscience face à la crise humanitaire des Rohingyas?
C'est en tout cas ce que dénonce Simon Petit du quotidien suisse Le Temps ce matin. Il revient sur ses promesses de dons, près de 300 millions de dollars donc récoltés hier par l'ONU, celle-là même qui parle de la communauté musulmane birmane des Rohingyas comme victime d'épuration ethnique, mais dont les États membres sont pourtant si réticent à condamner le régime birman soutenu par les Chinois. Alors, faute de vraiment s'engager pour enrayer l'exode des Rohingyas, la communauté internationale met la main au portefeuille. C'est un emplâtre humanitaire très loin d'être à la hauteur de la situation sur le terrain, laquelle a tout l'air d'un crime contre l'humanité, écrit encore Le Temps. Pour le reste, on devra se contenter de nouvelles menaces réitérées par les États-Unis et dont le Bangkok Post se fait l'écho. Washington, qui exprime en termes très diplomatiques sa vive préoccupation face au sort des Rohingyas. Dérisoire, c'est vrai, face à la situation de ceux qui fuient et s'entassent dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Pour ce qui est des conséquences très pratiques de cet exode dans la société bangladaise, on lira dans le Dhaka Tribune cet article plutôt embarrassant où l'on nous explique qu'à leur arrivée dans les camps, les mères de famille Rohingyas se voient proposer, sinon imposer, un moyen de contraception. 10 000 d'entre elles sont arrivées enceintes. Elles devraient accoucher très prochainement en exil et les autorités du Bangladesh, débordées par cet afflux démographique, veulent donc contrôler les naissances. Elles se heurtent, apprend-on dans le Dhaka Tribune, à un refus massif, en particulier des hommes Rohingyas.
On trouvera bien peu dans la presse d'Europe centrale ce matin d'articles, Camille, sur la victoire d'Emmanuel Macron quant à la réforme du droit sur les travailleurs détachés en Europe.
Bien peu de références, c'est vrai, en Hongrie comme en Pologne, par exemple, à cette âpre soirée de négociation qui a eu lieu à Bruxelles et qui a finalement débouché sur un compromis plutôt favorable à Emmanuel Macron, qui se voulait à la manœuvre sur ce dossier. Les pays d'Europe centrale qui fournissent le gros du bataillon de ces travailleurs détachés saluent tout de même, avec le ministre tchèque du Travail cité par les Tchèques Novini, le fait que Macron et Merkel sont revenus hier à la table des négociations avec un texte très adouci pour parvenir à un compromis. Paris et Berlin qui ont lâché du lest, en particulier sur le secteur cher aux Polonais, Hongrois et Tchèques, celui des transports, des chauffeurs routiers. La réforme du travail détaché y est repoussée à de futures discussions. Les Tchèques s'en sont contentés, ils ont approuvé finalement l'accord Macron, et c'est bien ce que leur reprochent les Hongrois et les Polonais qui, eux, ont persisté à voter contre. Macron a créé une ligne de fracture dans le bloc de l'Est européen, regrette la ministre du Travail polonaise sur le site d'info Interia Facti. La ministre s'y dit déçue par le manque d'unité affiché par le groupe de Visegrad, lequel est censé incarner l'alliance des quatre voisins orientaux de l'Allemagne.
Et puis à la une de la presse américaine, on trouve les larmes d'une veuve de guerre.
Les larmes de Miesha Johnson, jeune afro-américaine, mère de deux enfants, enceinte d'un troisième. Jusque-là, elle pleurait la mort de son mari, le sergent La David Johnson, tué en mission au début du mois au Niger. Mais ses larmes désormais sont contre Donald Trump. Le New York Times nous rappelle les faits. Quand il l'a appelé pour lui annoncer la mort de son mari et lui présenter ses condoléances, comme c'est la tradition, le président américain avait, selon la jeune femme, un ton absent. Il a oublié, balbutié le nom du sergent tué et il a dit à sa veuve qu'après tout, son mari savait bien ce pourquoi il avait signé. Cela fait une semaine que l'indignation monte aux États-Unis. Elle a encore été ravivée hier par le témoignage en direct sur la chaîne télé ABC de Miesha Johnson. Mais ce qui choque plus encore que l'arrogance de Trump, qui sur Twitter s'enferre dans ses mensonges, et comme l'écrit le Washington Post dans son refus de présenter des excuses à qui que ce soit, ce qui choque plus encore, c'est le contexte dans lequel cette polémique survient. Cette mission de l'armée américaine au Niger, où les quatre soldats sont tombés dans une embuscade, demeure très opaque. La plupart des Américains ont découvert en fait à cette occasion que des Marines s'étaient engagés au sol, au Sahel, et Trump, nous rappelle le Washington Post, n'a pas du tout communiqué sur l'affaire avant d'y être sommé par la presse 12 jours après les faits. La veuve Johnson, elle, demande qu'on lui donne des détails sur les 48 dernières heures de la vie de son mari, et c'est ça aussi finalement qui complique la communication de la Maison Blanche. Des larmes au rire, enfin, le satiriste du New Yorker Andy Borowitz a décidé, lui, de s'attirer s'amuser de cette polémique. Il cite un faux Trump qui se vante sur Twitter d'être le plus courageux des présidents américains, celui qui s'attaque enfin à la vraie menace qui plane sur l'Amérique, celle des veuves de guerre. Oubliez l'Iran, la Chine et Little Rocket Man, fait dire Borowitz à Trump. Moi, j'ai combattu pied à pied cette veuve de guerre, j'ai contesté sa version des faits et j'ai refusé de la soutenir dans son deuil. Ça, c'est de l'héroïsme. Heureusement, Guillaume, tout cela n'est que de la satire.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture. Dans quelques instants, un dialogue œcuménique pour commenter l'actualité, car il y a énormément de sujets où la religion est au cœur de l'actualité, depuis la condition des femmes jusqu'à la laïcité. Bah oui, c'est aussi un sujet sur lequel la religion a quelque chose à dire. Nous recevrons le rabbin Delphine Horwiller et l'islamologue Rachid Benzine. Il est 7h30 sur France Culture.